Les colloques du Collège de France.
La troisième présentation de cette session est par Madame Cécile Klinger ou Klinger. Je suis désolé, je ne l'ai pas vue au début de la session si je prononce mal son nom. Elle est polytechnicienne, elle s'est intéressée initialement aux neurosciences, mais plus spécialement maintenant aux problèmes écologiques, et elle est donc responsable du département écologie et santé environnementale de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et j'attends vraiment, et vous-même sans doute avec impatience, qu'elle explore avec nous cet angle nouveau au fond des défis auxquels l'hôpital du futur sera soumis. Donc Cécile, merci beaucoup.
Bonjour à tous et toutes. Un grand merci au Collège de France et au professeur Sansonetti pour cette invitation. C'est vraiment un honneur d'être ici. Effectivement, aujourd'hui, mon enjeu, c'est de vous convaincre, si ce n'est pas déjà le cas, que la transformation écologique du système hospitalier, c'est vraiment la condition de sa résilience et de sa capacité à prendre en charge des patients à l'avenir avec le même niveau de qualité de soins, voire avec un meilleur niveau de qualité de soins que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Je vais commencer par un rappel du contexte un peu général. Probablement, vous connaissez déjà un peu tout ça, mais c'est toujours bien de reposer un petit peu les enjeux et les raisons pour lesquelles l'hôpital, en fait, s'intéresse aussi à la crise environnementale et à la transition écologique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit une crise environnementale sans précédent, avec des émissions de gaz à effet de serre qui ne font qu'augmenter, et ce, malgré les engagements de pays qui ont été pris lors des différentes COP depuis maintenant plusieurs décennies, mais qui n'arrivent pas à infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Mais ce problème du dérèglement climatique, ce n'est pas le seul auquel on est confronté. J'imagine que vous connaissez les limites planétaires, qui sont 9 limites qui ont été définies par des scientifiques et qui rendent compte en fait de la capacité de résilience de l'écosystème Terre, de l'écosystème planète, à revenir à son niveau initial, on va dire, quand on lui soumet des modifications. Donc parmi ces limites, on a des choses sur le cycle de l'eau, on a des choses sur l'acidification des océans, sur la biodiversité. Les dernières nouvelles sont qu'on a dépassé 7 de ces 9 limites. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sur 7 de ces 9 limites, le système Terre n'est plus en mesure de revenir à son niveau initial, compte tenu des modifications qu'on lui fait subir. Et puis aussi un enjeu dont on parle peut-être pas suffisamment non plus, mais qui est l'enjeu de biodiversité. Pour rappel, en France métropolitaine, on a perdu 80% de nos insectes en 30 ans. C'est pas juste un sujet de les insectes ont disparu, c'est un sujet de la capacité de nos systèmes agricoles, par exemple, à nourrir les populations. Donc je parle des insectes, tous les espèces globalement vivent des situations similaires. Donc voilà, c'est une crise environnementale qui est assez complexe et qui touche à beaucoup d'enjeux différents. Et le rapport avec la santé dans tout ça, en fait, il est à la fois très direct et très complexe également. Le changement climatique en particulier, avec l'avènement d'événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents et de plus en plus graves, a des conséquences à la fois directes sur la santé des populations qui sont touchées, directes dans le sens du traumatisme physique ou psychologique, pour les populations qui vont vivre des ouragans, des incendies, des canicules ou des inondations par exemple. Mais on a aussi évidemment une augmentation des maladies liées à la chaleur, liées aux canicules, des maladies vectorielles infectieuses type zoonose, des maladies liées à la dénutrition, à les difficultés d'accès à de l'eau potable. Donc voilà, un ensemble de conséquences vraiment très directes sur la santé. Je vous ai mis ici juste quelques exemples un peu chiffrés qui sont issus du rapport du Lancet Countdown, donc le Lancet, qui est cette revue anglaise qui publie tous les ans un rapport sur l'évolution des liens entre santé et transition écologique ou dérèglement climatique, et qui vous montre, je ne sais pas si je peux avoir, ouais, super, qui vous montre que sur la période 2020-2024, sur ce graphe ici, en Europe, on a ressenti en moyenne 19 jours de canicule par an, dont 86% qui n'auraient pas eu lieu si on n'avait pas eu le dérèglement climatique. C'est ce qui s'est passé en 2024, mais on sait que les tendances sont à l'augmentation et que donc d'ici 2030, 2040, 2050, ce nombre de jours de canicule par an ressenti, il va faire qu'augmenter. Ces canicules dans le monde, elles ont touché en 2024 166 millions de personnes, ont provoqué une surmortalité directe qui est probablement sous-estimée, mais d'au moins 16 000 décès, et qui ont impliqué le déplacement de 800 000 personnes à travers le monde, parce que ces personnes-là vivent dans des endroits qui ne sont plus vivables pour les humains. Et ça, de nouveau, c'est quelque chose qui va ne faire qu'augmenter. Et au-delà des vagues de chaleur, j'en ai un petit peu parlé, mais l'augmentation des températures a aussi d'autres impacts sur la biodiversité, sur l'accès à l'eau douce, sur l'accès à de la nourriture de bonne qualité, etc. Et puis il y a quelque chose dont on parle peut-être pas non plus trop, mais c'est que le dérèglement climatique, il y a des impacts directs sur les infrastructures de santé aussi. Ça, c'est l'hôpital de Mayotte, après l'ouragan Chido de l'année dernière. Donc autant dire que l'ouragan provoque un afflux de patients qui ont des besoins extrêmement urgents de prise en charge compte tenu des traumatismes qu'ils ont vécus, et on n'a plus d'hôpital pour les prendre en charge. C'est un exemple qui peut paraître lointain, parce qu'on parle souvent de France métropolitaine, etc. Bon, c'est quand même la France. Ça, c'est Alençon, l'hôpital d'Alençon, après une inondation, une crue de la rivière, alors à côté d'Alençon, je ne sais pas laquelle c'est, mais en tout cas, voilà, pour vous montrer, concrètement, cet hôpital-là, il ne fonctionne pas non plus. Donc tous les patients qui étaient là ont dû être transférés dans des hôpitaux ailleurs. Et puis, je ne connais pas le montant de réparation suite à ces dégâts-là pour l'hôpital, mais ce n'est pas négligeable. Donc tous les hôpitaux, aujourd'hui, sont à risque de perdre leur capacité vraiment physique de prise en charge des patients, alors même qu'on sait qu'on va avoir plus de patients à prendre en charge. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la responsabilité aussi du système hospitalier dans ce dérèglement climatique. Je ne sais pas si vous connaissez le SHIFT Project. Tous et toutes, le SHIFT Project, c'est un think tank, donc c'est une organisation à but non lucratif française qui a pour objectif de travailler sur la décarbonation de tous les secteurs d'activité, on va dire, en France, et en particulier, ils ont un sous-groupe sur la santé, qui a publié un rapport en 2023 qui a estimé que l'empreinte carbone liée au secteur de la santé en France, c'est 8% de l'empreinte nationale. 8%, c'est pas du tout rien. Pour comparaison, le secteur de l'aviation en France, c'est à peu près 5%. Compte tenu des accords et des engagements que la France a pris, notamment dans le cas des accords de Paris, par exemple, de diminution de 5% de ses émissions par an, on ne peut pas oublier 8% de nos émissions sous prétexte que c'est le secteur de la santé. Cela dit, le secteur de la santé, et en particulier le secteur hospitalier, c'est un secteur qui est quand même particulier par rapport à d'autres secteurs d'activité, avec des contraintes très fortes, d'un point de vue évidemment réglementaire, avec des contraintes en termes d'ouverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'énergie qui ne peut pas s'arrêter, parce que c'est littéralement une question de vie ou de mort. On est au cœur d'un écosystème logistique, de transport, d'échange de produits et de personnes qui est extrêmement complexe, donc c'est pas un secteur qui est très facile à décarboner, et pour autant, on a cette responsabilité parce qu'on pèse quelque chose qui n'est pas négligeable à l'échelle de la France. Puis je voulais vous montrer aussi quelque chose qu'on imagine un petit peu, mais dont on voit peut-être pas quand même très bien, surtout quand on n'est pas dans le milieu de l'hôpital, la réalité, c'est notre dépendance aux énergies fossiles, et en particulier au pétrole et au plastique. Ça, c'est une photo, alors c'est probablement un service de réanimation qui a été prise au Canada, qui vous montre un peu partout où il y a du plastique, donc autant dire, c'est littéralement l'ensemble du service est quasiment en plastique. Et puis ce graphique qui a été publié dans le Lancet également, Lancet Planetary Health, qui vous montre la dépendance des systèmes hospitaliers dans le monde aux énergies fossiles. En France, on est à les couleurs ne sont pas bien définies, mais entre 90 et 100%. Et ce n'est pas juste le carburant des ambulances et des hélicoptères, c'est le plastique qui est présent partout au niveau de notre prise en charge et dont on ne peut pas se passer aujourd'hui, en tout cas difficilement. Donc, l'hôpital a une responsabilité pour se décarboner, et la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on rend l'hôpital de demain plus décarboné, plus éco-responsable, et donc, comme je l'ai dit, également plus résilient face aux dérèglements climatiques qui vont continuer de se poursuivre. Ce que je voulais vous montrer, c'est le bilan carbone de l'APHP. Donc, dans le département, nous, on fait le bilan carbone de l'institution tous les ans. Et c'est assez intéressant de mettre des chiffres sur ces questions-là, parce que ça permet de prioriser les leviers sur lesquels on peut agir et qui vont être efficaces. Peu importe le chiffre en valeur absolue, ce qui est intéressant plutôt, c'est la répartition des émissions dans ce chiffre-là et l'évolution de ce chiffre que je vous montrerai après. En termes de répartition, ce que vous pouvez voir ici, c'est que 60% des émissions de gaz à effet de serre d'un hôpital, enfin de l'APHP, mais en fait pour n'importe quel hôpital MCO, ce sera un peu la même chose. Pour les hôpitaux gériatriques ou SMR, c'est un petit peu différent, mais quand on fait du MCO, globalement, ça ressemble à ça. Plus de 50%, donc chez nous c'est 60%, des émissions sont liées aux soins. Dans le soin, dans l'ordre, on va avoir les médicaments, les consommables de laboratoire, donc tout ce qui va être réactif de biologie par exemple, les dispositifs médicaux, ça c'est 50%, et après il y a un petit pouillème de gaz médicaux, notamment les gaz anesthésiques, et de tout ce qui va être textile à usage unique, que ce soit les vêtements pour les patients ou les professionnels, ou le linge, les draps, etc. par exemple. Donc c'est ça, en fait, l'enjeu, très clairement, de décarbonation. Je ne dis pas que les autres enjeux sont négligeables, ils ne le sont pas, mais typiquement sur l'énergie, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites aussi pour des raisons financières, hein, pour améliorer, réduire les consommations, améliorer le mix énergétique des hôpitaux. On a beaucoup de choses qui se font sur la restauration, par exemple le numérique, je ne vais pas en reparler, mais effectivement la question du numérique responsable et de l'IA va prendre de plus en plus de place en termes de réflexion sur l'impact environnemental. Mais très clairement, si on veut réussir à décarboner de façon efficace, il faut s'attaquer à la question du soin. Je veux juste aussi vous montrer la part des déchets. Donc, déchets, c'est traitement des déchets. C'est une fois que le déchet existe, dans quelle filière de tri on le met et est-ce que potentiellement on le recycle? Ça représente 1% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc les déchets, c'est pas un sujet de décarbonation. Ça peut être un sujet de pollution, ça peut être un sujet de ressources, mais c'est pas un sujet qui va permettre de décarboner l'hôpital. Je voulais vous montrer aussi l'évolution de ce bilan carbone. Alors c'est pour la PHP, j'ai pas les chiffres pour les autres hôpitaux évidemment, mais je pense qu'on est globalement tous plus ou moins dans la même situation. Le bilan carbone en valeur absolue, c'est la courbe violette, enfin rose là. Donc voilà, donc ça augmente concrètement d'année en année. Donc on n'arrive pas pour le moment à vraiment décarboner. En jaune, c'est les émissions de gaz à effet de serre par journée d'activité. Parce qu'on peut se dire, évidemment, si on a plus d'activité, plus de journées d'hospitalisation, on va avoir plus d'émissions, c'est aussi logique. La réalité, c'est que ça augmente quand même, en tout cas sur la période 2022-2024. A priori, la tendance, elle n'est pas trop ni à la stabilisation, ni à la baisse. Donc, ce qu'on voit, c'est le bilan carbone augmente. La question, c'est pourquoi? Et donc, quand on creuse par rapport aux postes d'émission que je vous ai montré juste avant, eh bien, c'est intéressant de remarquer que pour les postes énergie, transport, déplacement, alimentation, déchets, ces postes-là, sur la période, ils diminuent. Ce qui augmente et ce qui drive du coup cette évolution à la hausse du bilan carbone, c'est de nouveau les soins. Donc on a vraiment un double enjeu à travailler sur les soins, d'une part parce que ça représente plus de la moitié de nos émissions, et d'autre part parce que c'est ce qui explique pourquoi est-ce que notre bilan carbone il augmente. C'est pas illogique, hein, c'est le cœur de notre activité, donc c'est normal que ce soit ce qui pèse le plus dans les émissions, et c'est pas non plus illogique qu'on soit dans cette dynamique-là, parce que c'est un sujet qui a été pris en compte en fait relativement récemment dans les systèmes hospitaliers. Donc on commence à travailler sur cette question de la décarbonation des soins depuis 3-4 ans maximum, enfin en tout cas de façon agrégée et collective en France. Je voulais partager trois constats avec vous justement sur cette décarbonation des soins. Je ne reviendrai pas sur les enjeux de décarbonation des autres postes d'émission, même s'ils sont très importants, mais je voulais vraiment me concentrer aujourd'hui sur la partie soins. Le premier constat, c'est que pour décarboner du soin, il faut questionner ses pratiques de soins. Et ça, on ne peut pas le faire juste un métier par un métier. On est obligé de lancer des collaborations entre les différents professionnels de la santé, les médecins, les soignants, et puis les experts du chiffrage carbone, qui vont justement permettre d'identifier quelles sont les actions qui sont les plus efficaces pour ne pas perdre de temps, d'efforts et de ressources à mettre en place des actions qui ne vont pas avoir d'effet de décarbonation. Et donc ça, c'est des exemples à la PHP, hein, mais comme c'est l'exemple que je connais le mieux, c'est ce que je peux vous montrer. Nous, ce qu'on met en place, c'est vraiment un travail de sensibilisation, de formation des professionnels de santé très poussé, avec le plan Elsphère, qui est l'équivalent de la fresque du climat en santé, pour celles et ceux qui connaîtraient la fresque du climat. On a aussi un gros travail à la PHP de chiffrage justement de l'empreinte carbone de ce qu'on fait, avec l'outil bilan carbone qui est proposé bien sûr par le gouvernement, mais on a aussi développé un outil en interne qui s'appelle Carbone et qui permet d'estimer les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle d'un parcours de soins ou d'un acte médical. Ça concrètement, à quoi ça sert? C'est quand un professionnel vient nous voir en disant « moi j'ai deux alternatives de soins qui médicalement vont avoir le même effet, mais qui ne vont pas utiliser la même quantité de médicaments, de dispositifs médicaux, le même temps pour des professionnels, etc. Quelle est la meilleure solution d'un point de vue environnemental ?» Carbone permet de répondre à ces questions de façon scientifique. Et c'est vraiment quelque chose qui est attendu par les soignants pour réussir à faire, en tout cas, approcher le problème d'une façon rigoureuse. Et puis, en fait, la question des pratiques de soins, de la modification des pratiques de soins, c'est un peu comme son nom l'indique, hein, mais c'est une question d'accompagnement au changement. Et donc, nous, dans le département, on n'a pas du tout de rôle prescriptif ou de recommandation. On est vraiment là dans une collaboration. Mais l'idée, c'est de réussir quand même à identifier les bons leviers et que les soignants, les professionnels de santé qui réussissent à mettre en place ces leviers puissent ensuite aller accompagner leurs collègues pour que les bonnes pratiques se diffusent. Je ne l'ai pas dit, j'imagine que mon directeur général hier l'a dit aussi, mais juste à l'échelle de la PHP c'est 90 000 personnes à peu près. Donc ce travail-là d'accompagnement au changement et de partage des bonnes pratiques, c'est une gageure quand on est aussi nombreux, et je ne parle même pas de quand on regarde le système hospitalier en France ou dans le monde. Le deuxième constat, c'est que les leviers de décarbonation pertinents, ils dépendent de la spécialité qu'on regarde. En fait, on ne décarbone pas un service de gériatrie ou de néonatologie ou un bloc opératoire de la même façon. Les leviers, ils vont vraiment être spécifiques, forcément, à l'activité qu'on regarde. Et ça rend le problème d'autant plus complexe, parce qu'on n'a pas des espèces d'actions, enfin, on en a quelques-unes, mais très peu, des actions un peu phares que tout le monde peut mettre en place et ça va avoir un super effet. En fait, non, en fait, il faut regarder spécialité par spécialité quelles sont les activités et essayer d'identifier les actions pertinentes par activité. Ce qu'on a mis en place, nous, à la PHP, c'est une première étape d'état des lieux, juste de savoir, dans tous nos services, on a fait le test sur bloc, endoscopie et maternité, qu'est-ce que vous faites, où sont vos freins pour la mise en place de certaines actions par rapport à ce qui est défini dans la littérature, par exemple, ou de bonnes pratiques qu'on peut trouver parce que d'autres hôpitaux ont réussi à les mettre en place. Ce travail d'état des lieux, il est un peu fastidieux, il prend du temps, mais en fait, il est indispensable pour réussir à comprendre qui en est où et qui a besoin d'aide sur quel sujet, parce que les contextes des services vont évidemment être différents et donc les obstacles ne vont pas forcément être les mêmes pour tout le monde. Le deuxième levier, on va dire, qu'on met en place, nous, on développe des écolabels pour vraiment à la fois essayer de valoriser les services qui vont réussir décarboner leurs activités ou à mettre en place des actions intéressantes. La question de la valorisation des professionnels, c'est une question qui est vraiment majeure. On sait que, j'imagine, il en a été fait mention hier, mais être professionnel de santé aujourd'hui, c'est quand même être dans un milieu qui est extrêmement, on travaille dans l'urgence, qui est extrêmement contraint, avec beaucoup de pression, et on a du mal, nous en tout cas aujourd'hui, en transformation écologique, à valoriser les personnes qui prennent du temps en plus de leur quotidien professionnel pour mettre en place des actions qui, de toute façon, demanderont à un moment ou à un autre un investissement, soit en temps, soit en énergie, soit en financier, parfois aussi. Donc ces écolabels vont, on l'espère en tout cas, vraiment permettre de valoriser et de donc labelliser les services qui ont fait cet effort-là. Et puis aussi, presque bêtement, mais un écolabel, c'est in fine une grille avec des actions qu'on peut mettre en place. Et donc les services qui veulent s'engager auront aussi à disposition cette grille pour se dire je sais que du coup, ça et ça et ça et ça, c'est possible à la fois parce que des services l'ont déjà mis en place et à la fois parce que ça a été validé, entre guillemets, d'un point de vue de l'impact environnemental. Et puis on travaille aussi avec des groupes de travail pluriprofessionnels et multisites, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est hyper important de réussir dans ces questions de transition écologique à avoir tous les métiers présents autour de la table. Il faut des médecins, il nous faut des infirmières, il faut les aides-soignantes, il faut les manip radio, il faut les personnels des laboratoires de biologie, parce que sinon on est sur un prisme qui est extrêmement contraint et on ne voit pas l'ensemble du travail de l'équipe et du service. Or la question de la transition écologique, elle touche tout le monde, elle touche tous les professionnels. Donc on a vraiment à cœur, nous, d'essayer de réunir l'ensemble des métiers de l'hôpital pour travailler sur ces questions. Et puis le troisième constat, c'est qu'en fait, les leviers de décarbonation, donc non seulement dépendent de la spécialité, mais en fait, ils vont aussi dépendre du contexte des spécifiques du service. Je l'ai dit, il y a certaines rares actions un peu phares, un peu symboliques, qu'on peut mettre en place un peu partout, typiquement, pour celles et ceux qui connaissent la problématique du desflurane au bloc opératoire, le desflurane étant un gaz anesthésique, donc qui permet de vous endormir quand vous êtes au bloc, qui est à peu près 10 fois plus émetteur, ou en tout cas qui a un impact 10 fois plus important que le sévoflurane, qui est une alternative qui, médicalement, est identique. Bon, bah ça, typiquement, les Anglais, eux, ils ont dit, on interdit le desflurane, et comme ça, on n'en parle plus, tout le monde prend du sévoflurane. On ne l'a pas fait en France, mais la plupart des blocs en France arrêtent naturellement le desflurane pour passer au sévoflurane. C'est une action facile, entre guillemets. On a l'alternative. Médicalement, les sociétés savantes n'ont pas posé... on ne recommande pas particulièrement le desflurane, et au contraire, disent qu'il faut mieux utiliser le sévoflurane, donc on peut le faire facilement. Mais il y a plein d'exemples où, en fait, les leviers de décarbonation qu'on va identifier pour un service ne vont pas forcément être pertinentes pour un autre. L'exemple que je voulais vous donner typiquement, c'est l'exemple des dispositifs médicaux usage unique versus réutilisable. C'est une question qui revient extrêmement souvent dans les systèmes hospitaliers, à la fois pour des questions de déchets, de dépendance au plastique dont j'ai déjà parlé. Mais en fait, quand on a un dispositif réutilisable, il faut avoir une stérilisation qui stérilise le dispositif. C'est le principe pour qu'il soit réutilisable. Or, quand on fait les calculs, bon, je vous ai mis un exemple d'un endoscope, peu importe. Quand on fait les calculs dans certains services qui, par exemple, vont avoir peu d'actes pour lesquels ils utilisent CDM, et ben le poids, l'investissement entre guillemets environnemental de la stérilisation va pas forcément être pertinent par rapport à l'usage unique. Et donc selon le niveau d'utilisation, selon aussi le pays dans lequel on stérilise et le mix énergétique qui est utilisé pour stériliser les DM réutilisables, et ben la réponse n'est pas forcément très simple. Donc c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut systématiquement refaire les études. En tout cas, on en est là aujourd'hui dans notre démarche globale, hein, collégiale sur la décarbonation. On est obligé de refaire les études systématiquement pour prendre en compte le contexte du service qu'on est en train de regarder et voir si vraiment le passage de ce DM-là, enfin de ce dispositif à un dispositif, enfin, usage unique à un dispositif réutilisable, est vraiment pertinent dans ce contexte. Hop. Je finis rapidement pour tenir le temps. Là, j'ai parlé beaucoup de décarbonation et d'émissions de gaz à effet de serre, mais je vous l'ai dit, c'est pas le seul enjeu. On s'intéresse beaucoup, nous, à la PHP, à ce qu'on appelle la santé environnementale également. Donc la santé environnementale, c'est un terme qui... Enfin, la définition, en tout cas, qui est donnée par le gouvernement et par les ARS, c'est l'ensemble des facteurs qui, environnementaux qui déterminent la santé ou la maladie. Et donc, en particulier... Donc, il est défini par exposome. En particulier, nous, on s'intéresse beaucoup aux expositions à des polluants de type perturbateurs endocriniens, composés, cancérigènes, mutagènes, reprotoxifs, qu'on sait être présents un peu partout, malheureusement, autour de nous, et dont on sait de plus en plus qu'ils participent à l'aggravation, voire à l'émergence de certaines pathologies. Quelques chiffres, l'OMS estime qu'aujourd'hui, environ 23% des décès et 25% des pathologies chroniques dans le monde qui sont liées à ces expositions à des facteurs environnementaux. On pense au tabac, hein, facilement, typiquement, ou à l'alcool, qui sont ceux qui sont les plus médiatisés peut-être, mais de plus en plus, la recherche tend à montrer qu'ils ne sont pas les seuls polluants auxquels on est exposé et qui peuvent créer ces pathologies. Et puis le coût économique du fardeau environnemental, donc le fait de prendre en charge des personnes qui, à cause d'exposition environnementale, ont développé une pathologie, ça a été estimé à 150 milliards d'euros par an en Europe, en 2015 en plus, donc c'est il y a plus de 10 ans, potentiellement ça augmente également. Donc on a, je pense, au niveau du système hospitalier, un fort enjeu à sensibiliser à la fois nos patients et nos professionnels pour limiter ces expositions et pour limiter l'apparition ou l'aggravation de ces pathologies. Très bêtement aussi à limiter juste la présence de polluants sur nos sites. Nous, on a un travail notamment dans les maternités pour lesquelles on a réussi à enlever un certain nombre de substances toxiques qui étaient présentes dans les objets du quotidien. Et puis à promouvoir la recherche vraiment entre ces expositions et ces pathologies, parce qu'on a des indices, enfin la recherche en est à ses débuts, on a des indices sur le fait que l'exposition à certains perturbateurs endocriniens, on a beaucoup entendu parler des PFAS récemment qui sont présents dans les poils, etc., que l'exposition à ces perturbateurs endocriniens crée des pathologies, mais c'est quand même pas évident de faire le lien exactement d'un point de vue recherche. Et à terme, je pense que l'objectif, ce serait de réussir à prendre en compte cet exposome aussi dans le diagnostic et la prise en charge des patients, au même titre qu'on prend en compte les antécédents génétiques ou le mode de vie en prenant tabac et pratique de sport, par exemple. Et puis d'autres enjeux dont je n'ai pas trop parlé et sur lesquels je ne vais pas m'attarder, c'est la gestion de l'eau, sur lequel je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour réduire nos consommations, réutiliser quand c'est possible aussi des eaux qui sont propres mais qui n'ont pas été utilisées, notamment en dialyse par exemple. On a un gros sujet sur les déchets et les pollutions, qu'elles soient physiques ou liquides, dans les effluents également des hôpitaux. On sait qu'on retrouve un certain nombre de polluants en ville aussi, hein, mais en particulier dans les hôpitaux. Et puis un sujet dont je n'ai pas parlé, mais qui est au cœur aussi de la résilience des systèmes, confère les images que je vous ai montrées des hôpitaux qui sont ravagés par des événements climatiques extrêmes, c'est l'adaptation au changement climatique. Le changement climatique, il est lancé. On sait qu'il va y avoir des conséquences de toute façon, et il va falloir que le système hospitalier s'y adapte pour pouvoir continuer de prendre en charge des patients malgré des contraintes environnementales et de milieux qui vont être différentes. Donc en conclusion, je pense que le secteur hospitalier, il a pris peut-être le virage de la transition écologique un peu plus tard que d'autres secteurs. Je vous l'ai dit, je pense que ça date, enfin, en tout cas de façon vraiment institutionnelle et organisée, ça date en fait du rapport du Shift Project en 2023. Je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste parce que ce secteur avance très vite. Et là, je vous ai mis une liste non exhaustive d'organisations, qu'elles soient gouvernementales, associatives, de sociétés savantes. J'ai pas mis non plus tous les hôpitaux qui s'engagent, mais on a vraiment une multiplication des acteurs qui proposent des plans d'action ou qui proposent des idées de levier de décarbonation pour que le système hospitalier dans son ensemble réussisse à prendre ce virage de la transition écologique. Et je vous remercie pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.